d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, je suis avec Ludo et Christophe, bonjour à tous les deux.
Bonsoir.
Gilles au micro et bien sûr Claude à la technique, comme toujours. Ce soir, nous parlerons bien sûr de la réouverture des négociations de l'assurance chômage avec un État qui reprend la main, puisqu'il a envoyé une lettre de cadrage aux partenaires sociaux dans le cadre des discussions sur l'assurance chômage. Nous parlerons également de la dégressivité et surtout du plan pauvreté qui apparemment a un changement dans son action puisqu'ils veulent combattre la pauvreté par le travail hein, et puis du tout par les aides données aux personnes. Voilà. Nous parlerons également du pognon de dingue qui est donné à certaines personnes et pas à d'autres et surtout des salariés sans statut dans le domaine viticole et bien d'autres sujets bien sûr qui concernent la pauvreté et la précarité. C'est la séquence État partout, justice nulle part. Donc, Ludo, apparemment, l'État veut reprendre la négociation unique à sa main, on va dire. Il propose donc une lettre de cadrage aux partenaires sociaux. Que dit c'est, quels sont les points forts et les points faibles de cette négociation, de cette lettre par rapport aux
partenaires c'est bien parce qu'on a la philosophie macroniste développée dans le courrier qu'il a envoyé aux partenaires sociaux. Pour leur sommet d'ouvrir les négociations, semble-t-il, courant décembre, et cela pour 4 mois. Donc j'aime autant vous dire que c'est une lettre qui a fait beaucoup parler d'elle, puisqu'il faut se souvenir que M. Macron a fait des promesses de campagne où il parlait très clairement de substituer les allocations d'aide au retour à l'emploi, de les remplacer par une aide unique subventionnée par l'État. Alors il n'y a pas dit aide unique, hein, mais bon, ça revient un peu à ça. Et donc, du coup... il dit dans sa lettre des cadrages, dont je vous fais lecture ici, que la conjoncture économique s'améliore et que nombre d'entreprises peinent à recruter. Alors, je vous rappelle hein, que l'INSEE a révisé à 1,6 sa croissance, qui fléchit nettement par rapport à 2017, et notamment en termes de création d'emplois, puisque les emplois dans le secteur des services ne sont plus que la moitié de ce qu'ils étaient l'année dernière. Oui. Et puis qu'évidemment, avec la disparition la réduction des emplois aidés, eh bien, sur le front du chômage, ça va pas très bien, c'est pas terrible. Alors, donc ça, c'est pour la conjoncture, hein. Mais bon. Dans sa note de cadrage, il pense sincèrement que la conjoncture va s'améliorer jusqu'à 2021. Admirez quand même la précision de la prévision, qui n'est jamais démentie, bien entendu. Il est temps maintenant de régler, de changer les règles de l'assurance chômage, qui incite au retour à l'emploi et au développement de l'emploi stable. Alors, il reconnaît 86% des salariés en emploi sont en CDI, mais depuis le début des années 2000, elles se font de plus en plus en contrat court, les embauches, hein, dont la durée et la tendance à se raccourcir et la fréquence s'intensifier, ça n'a échappé évidemment à personne. Là, on se dit que ça part bien et qu'on espère que Monsieur Macron va taxer les contrats courts, puisque c'est une revendication des partenaires sociaux, justement, enfin des syndicats plutôt, qui, bon, en tout cas des syndicats de salariés. Voilà. Et, mais voilà. Alors, y a toujours cette question, hein, c'est qu'on n'est pas sûr qu'il n'y a pas encore de, on n'a pas encore établi de lien entre dérégulation du marché du travail et reprise d'emploi, puisque je rappelle que l'accord interprofessionnel, la loi travail XXL de Monsieur Macron a effectivement dérégulé les droits du travail dans tous les sens. Alors voilà, du coup, il reconnaît donc qu'il y a une précarité qui augmente et que c'est ça qu'il faut augmenter en fait les chiffres du chômage à temps partiel, qui ne sont pas comptés comme des chômeurs en tant que tels, bien sûr. Mais qui sont dans la catégorie B et C, et elles augmentent régulièrement hein, malgré la baisse des chiffres du chômage. Alors il dit cette situation n'a rien d'une fatalité, mais c'est le produit de règles qui ne sont pas suffisamment orientées vers l'incitation au retour d'emploi durable et qui n'incite pas suffisamment à une meilleure organisation du travail plutôt qu'à un recours coûteux à l'assurance chômage. Alors là on voit qu'il y a quand même un souci d'équilibre, hein, c'est-à-dire il y a une responsabilité des entreprises mais il y a aussi une responsabilité des chômeurs, vous l'aurez bien compris dans son propos. Évidemment, parce que c'est bien entendu un petit peu la faute de ceux qui cherchent pas d'emploi s'il n'y a pas d'emploi durable. Alors voilà, donc il faut réformer pour éviter qu'il y ait trop de flexibilité, et donc il faut aussi une plus grande responsabilisation des entreprises, et c'est beau d'entendre ce genre de choses. Bon, et maintenant on passe aux choses sérieuses,
oui, parce que quand même, parce que là on rigolait un peu pour le coup.
D'accord. Eh ben alors je vous lis les choses sérieuses. Il faut quand même, chers amis, imaginer que malgré tout en temps de croissance, c'est en temps de croissance qu'il faut désendetter la France. Et donc, on va commencer par désendetter l'UNEDIC. Et oui, car l'UNEDIC devrait avoir un trou en 2019 de 35 milliards. Elle est à 30 et quelques milliards. Donc il semblerait qu'annuellement, elle ait un trou de 5 milliards. Alors c'est énorme, oui et non. C'est énorme, c'est vrai, c'est énorme, mais c'est aussi les effets de la crise. Et puis, surtout, c'est 11 mois de recettes. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'elle brasse effectivement 38 milliards d'euros de recettes par an. Et puis, effectivement, il y a des périodes où ça coûte un peu plus cher. Mais il faut se souvenir aussi qu'aujourd'hui, c'est 40 et quelques pourcents, c'est 40 et quelques pourcents de chômeurs qui sont seulement indemnisés. Et que l'UNEDIC fait des économies depuis 2017 de 900 millions d'euros par an. Et que son déficit annuel devrait être résorbé dans les prochaines années, c'est-à-dire dès 2019, d'après les prévisions de l'UNEDIC, si la croissance se maintient, ce qui n'est pas une garantie. Alors, donc voilà. Et donc, il faut s'attendre à quoi ? À une baisse des droits, puisque c'est forcément le levier.
Ce qu'on appelle la dégressivité.
Alors, la dégressivité n'est pas encore, n'est pas dans la lettre de cadrage, mais parce qu'il a laissé, voilà, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas un mot
ouvert,
sur la, ça reste ouvert. Voilà, donc du coup, on peut s'attendre effectivement si, parce qu'il, l'air de rien, il faut quand même faire, dans les années à venir, au moins 3 milliards et demi, d'économies.
Par an.
Régulière. Ouais, ouais. Non, sur jusqu'en 2021.
Ah, jusqu'en 2021.
Mais enfin, c'est 3 ans. Donc
oui, c'est 3 ans.
C'est énorme. Donc voilà, quand on voit l'état l'état d'indemnisation justement des chômeurs. Donc voilà. Alors du coup, que dit-il exactement quand même ? Enfin bon, je vous passe les détails. C'est qu'il y a quand même un souci, c'est que comme toujours, l'équilibre entre règles d'indemnisation et patronat, on va dire, c'est toujours déséquilibré, et ça reflète bien la relation du travailleur avec son patron, c'est que, effectivement, il n'y a pas de mesures contraignantes pour le moment, et on parle pas en dehors de l'introduction, il ne parle pas réellement de taxer les contrats courts.
Bien sûr.
Hein, il parle d'une organisation du travail. Et, dit-il, on va, en fait, créer une allocation minimale pour les chômeurs de longue durée, qui sera, cette fois, financée par l'État. Parce que pendant que M. Macron pond cette belle lettre, il faut se souvenir que les indemnités chômage, les cotisations à l'indemnité chômage des employeurs sont-elles supprimées ? Et dit-il, elles seront compensées à l'euro près. Ce qui fait qu'en fait, de fait, même si, entre guillemets, l'État prêtait de l'argent régulièrement à l'UNEDIC, l'État rentre directement dans la gestion de l'UNEDIC.
Oui, c'est ça.
Et qu'à ce titre, il peut effectivement imposer cette latte de cadrage financière. Bon, même si en définitive, c'est lui qui agrée la convention, qui est signée, et qu'il peut surtout créer son allocation, dont on craint en fait que ce soit une allocation. Donc c'est le fameux retour à la dégressivité, une allocation, parce qu'on voit la SS. Hein. Ouais. Là, on n'a pas de limite de durée, ça sera peut-être 2 ans, on ne sait pas. Mais par contre, ça sera un seuil minimal d'indemnisation pour... Et donc, on peut imaginer qu'à terme, il y a
effectivement... De ce que j'avais plus ou moins compris, la dégressivité ne toucherait éventuellement... que les plus hauts revenus avant l'inscription au chômage.
Ça, c'est ce qui s'est dit dans la presse. Oui. Alors, c'est ce qui s'est dit dans la presse.
On attend le voir.
Non, c'est pas plus. La dégressivité, évidemment, parce qu'en France, on est les,
on est champions. Les,
ouais. Qui sont, on n'est pas, enfin, le plafonnement est très très haut. Voilà. Donc voilà. Donc effectivement, c'est une espèce de RMI minimal, puisque effectivement, c'est l'État qui financera. Mais pour les chômeurs. Alors voilà, donc je vais finir pour faire vite. Ouais. Donc c'est que il n'y a pas grand-chose hein, sur la durée de l'indemnisation, enfin sur le jeu que vont amener. En revanche, on aura réellement un plan d'économie qui est prévu et qui est cadré par l'État. C'est-à-dire que là, pour le coup,
c'est nouveau pour le coup par rapport à avant, non ? Ouais, il y avait déjà
des fortes incitations, ouais, mais là, par contre, en finançant une partie. Il a un levier d'action, en fait.
Exactement.
Et donc, surtout, il favorise une partie très claire des partenaires sociaux, dits sociaux. Donc, effectivement, les syndicats d'employeurs qui pourront inciter eux-mêmes à baisser les droits des chômeurs. Donc, je précise pour finir que la CGT ne veut pas négocier et qu'elle tente de rallier à elle les syndicats et que la CFDT pourrait, pour une fois, être sur la même longueur d'onde.
Merci Ludo. Alors dis-moi Christophe, par rapport à la dégressivité.
Il y a eu une étude par rapport à ça, par rapport à la dégressivité, un scan qui amène en fait... Effectivement. Excusez-moi, il y a un petit rire. qui amène effectivement des partenaires sociaux à s'interroger. Excusez-moi, ça arrive.
On va passer une petite musique.
Ouais.
Oui, si tu veux. Je vais une petite musique. Voilà, merci.
Bien des gens, paraît-il, ne paient pas leurs impôts et traitent ceux qui les payent de poire et de ballot. Moi, je n'apprends pas. Ton manchette, ton rasoir star et ton blaireau, tes draps, ta pipe et ton yo-yo, as-tu déclaré ta belle-mère, ta bassinoire et ton bahut, as-tu déclaré ton salaire, as-tu déclaré tes revenus?
Eh oui, une chanson qui est tout à fait dans notre émission, la bienvenue. D'ailleurs, je voulais savoir si vous aviez tous déclaré vos revenus. Je plaisante. Voilà. Donc, on reprend cette émission. C'est Mode d'emploi sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Une émission sur le chômage et la précarité que nous reprenons maintenant. Alors, Christophe, veux-tu nous parler un peu de dégressivité ?
Alors oui, il y a eu effectivement une étude par rapport à toutes cette idée, ce concept de chômage dégressif. Hein, et vous allez vite comprendre pourquoi ça hérisse le poids d'un certain nombre de représentations syndicales, notamment dans le cadre de la lettre de cadrage d'Emmanuel Macron, dont on évoquait les limites et les contours il y a quelques minutes. C'est-à-dire que la question, déjà, il y a eu un récent sondage qui a été fait par pour les Échos. Il y a 67% des Français qui sont favorables, qui seraient favorables. Bon, alors la représentation patronale, le MEDEF, met ça en avant. Mais il y a d'autres organisations
qui seraient favorables à la dégressivité.
À la dégressivité, d'accord, tout à fait. Mais il y a d'autres
organisations. Il y en a qui bossent ici.
Oui. Il y a d'autres organisations et qui sont beaucoup plus modérées dans leurs propos, comme la CFE-GSC qui estime donc la centrale des cadres qui estime que cette dégressivité c'est tout simplement une ligne rouge. Elle partage d'ailleurs l'avis de Force ouvrière qui signera pas cet accord si on y contient une telle mesure. Et en fait, l'intérêt c'est quoi? Parce que la notion de dégressivité, je le respecte historiquement dans l'histoire de l'UNEDIC, c'est pas nouveau. Manuel Valls avait tenté en 2016 de faire appliquer ça. Ça a été un marqueur hein, politique en termes de valeur des candidats primaires de la droite.
Ah oui, très primaire, on peut dire.
Et de la gauche, de la droite. République,
la républicaine.
Non
mais ça apparaît comme en fait une manne financière pour boucher le déficit de l'Unédic. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que ça a un intérêt pour ceux qui recherchent un emploi ? Et là, comme l'a montré une enquête dans Le Monde, il est impossible de tirer une conclusion sur la notion d'efficacité de la dégressivité sur le retour de l'emploi quand on introduit ça dans le système, comme en Espagne, où au bout de 6 mois d'inactivité, on passe de 70% du salaire à 50%. Ça après, en Suède, les allocations passent de 80 à 70% après 200 jours d'inactivité. À part pour les cas d'un très haut revenu qui sont extrêmement mobiles, qui peuvent aller travailler à l'international, il n'y a pas d'effet, quoi. Et le pire, c'est que ça accroît l'inégalité de la grande masse de chômeurs et précaires. C'est ça qui est dramatique, c'est-à-dire que, effectivement, les très hauts revenus vont être amenés à utiliser les systèmes de chasseurs de tête, de mobilité à l'international, des outils qui leur permettent de performer pour rechercher des postes attractifs. Et en général, ils restent pas très souvent dans des boîtes privées. 3-4 ans, ils sont très mobiles, très flexibles.
Oui, ils sont pas forcément exposés au chômage.
Mais ça risque de tout simplement compliquer, par exemple, la tâche des chômeurs de très longue durée ou de longue durée, qui eux sont, même s'ils sont très qualifiés, eux n'auront pas cette possibilité.
C'est-à-dire où ceux qui tombent à un moment dans le chômage de longue durée, plutôt.
C'est un effet. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ce qui est et là, on peut comprendre qu'il y a un peu, que c'est pas une chose idéologiquement qui est mise en avant, c'est qu'il y a eu une note de l'OFCE. C'est quand même pas un organisme proche d'idées révolutionnaires économiques. C'est des keynésiens. Et eux, ils avaient dit que c'était complètement inefficace comme mesure. C'est-à-dire que le risque, c'est soit d'appauvrir une grande masse de chômeurs, soit, afin de leur forcer à reprendre un boulot trop vite, quitte à avoir un déclassement, une déqualification de fait. Et puis, la conséquence, c'est que les employés, eux, sont pas employés conformément à leurs compétences. Et le résultat, c'est quoi ? C'est que la productivité de l'économie, comme les gens ne sont pas employés à leurs compétences, la productivité de l'économie d'un pays s'affaiblit.
Ah oui, avec la dégressivité ?
C'est-à-dire que la dégressivité fait que les gens sont amenés à se déclasser et à prendre des emplois.
Et à moins consommer, surtout.
Oui, c'est-à-dire
Je ne te parle pas en termes de salaire, je te parle en termes de compétences.
À ne pas utiliser leurs qualifications.
Leurs qualifications et leurs compétences, parce qu'ils sont obligés de prendre un travail pour ne plus subir le piège de cette dégressivité. Et au final, dans la masse de la reprise d'emploi, ça affaiblit le modèle économique du pays qui utilise la notion de dégressivité.
Oui,
c'est une aberration.
Une partie des gens qui sont
super compétents et qui sont beaucoup moins utilisés.
Donc en fait, ils avaient un travail, mais maintenant ils ont un emploi qui n'est pas automatiquement en relation avec leurs compétences.
Alors c'est une réalité d'aujourd'hui, du monde du travail d'aujourd'hui. Qui a qualification professionnelle, etc., exerce aujourd'hui son propre métier.
Il y en a encore beaucoup, heureusement, mais pas. Oui,
c'est très très peu maintenant. Voilà.
D'accord. Très bien. Merci Christophe. Alors il y a un deuxième sujet qui me paraît quand même important, c'est le plan le plan pauvreté quand même qui a été qui a été donc annoncé par le président de la République.
Toujours le même,
Monsieur Macron. Et qui apparemment, selon ce que j'ai pu lire par-ci par-là, apparemment il y a de bonnes choses, mais aussi de très mauvaises et que ça va pas automatiquement porter ses fruits.
Alors non, mais c'est intéressant parce qu'on va retomber sur ce que vient de dire Christophe là. Oui. Donc je précise en fait que pour dire ce que je veux dire, je m'appuie sur trois... parce que dans ce cas-là, quand on parle de pauvreté, il vaut mieux aller voir les spécialistes.
Tout à fait. Oui.
Donc en l'occurrence, c'était un article de la Fondation Copernic, donc de Didier Gélot, et puis des propos d'Henri Sterdignac, qui est justement de l'OFCE. Alors qui disait ceci, très intéressant d'ailleurs à cette antenne, entre autres, que le problème, c'est qu'on, comme tu l'as dit dans ton introduction, c'est qu'en fait on a changé d'optique. C'est-à-dire que, mais c'est pas nouveau. Hein. Auparavant, on luttait contre la pauvreté parce qu'on analysait que c'était un déficit de revenus pour des tas de raisons différentes. Pour des retraités, par exemple, ou des femmes seules. Et donc, on essayait de combler le manque de déficit. Et aujourd'hui, M. Macron prétend lutter contre le déterminisme. C'est-à-dire que si tu n'es pauvre, tu restes pauvre pour des raisons diverses.
Je confirme.
Voilà. C'est ce fameux pognon de dingue. C'est l'expression. Ça coûte un pognon de dingue et les gens restent pauvres. Et c'est pour ça qu'en fait, on s'est sorti dans la presse, enfin, c'est sorti comme ça en vidéo, pour aller essayer de préparer le terrain, en fait. Hein. Et du coup, ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que t'as effectivement des mesures, soi-disant, pour prévenir la pauvreté. Donc, et donc, effectivement, des très bonnes mesures. Donc, par exemple, des places en crèche pour... permettre aux femmes seules de travailler.
Okay. Les minima sociaux?
Alors non, les minima sociaux, ça on oublie. On en reparlera tout à l'heure, mais non, ça fait pas partie du projet. En revanche, effectivement, pour les jeunes, par exemple, essayer de mettre en place des plans de qualification pour les jeunes déscolarisés, en fait, entre 16 et 25 ans. Alors on en parle peu parce qu'effectivement, ça touche que 100 000 personnes. Je rappelle qu'aujourd'hui, les 900 000, il y a 900 000 jeunes qui sont ni en emploi, comment on appelle les Nord, ni en formation. Et donc, et qu'effectivement, il y a un nombre important de jeunes qui sortent régulièrement du système, enfin à la fois du système scolaire et qui débouchent sur le marché du travail, et qui sont les premières victimes du chômage. Donc ça, il y a une espèce de batterie de mesures, intéressantes, mais qui sont finalement chiffrées à 2 milliards par an. Je rappelle, le plan, c'est 8 milliards sur 4 ans. Ou 6 milliards sur 3 ans, je sais plus.
C'est pas énorme. Hein.
Et du coup, 2 milliards par an, c'est pas grand chose. Et comme le rappelaient des gens avertis. Parce que, il faut comprendre, hein, que les 2 milliards par an, c'est pas grand chose, en fait, par rapport à la masse.
Oui, bien sûr.
Et surtout, c'est pris ailleurs.
Oui.
Et donc, les gens avertis précisaient quand même, on a fait entre 5 et 7 milliards de cadeaux aux plus riches,
exactement.
C'est-à-dire à la fois, bon, on va
ou
pas parler ici, l'ISF,
oui.
Mais aux plus riches, voilà, des plus riches, on prévoit de ne pas augmenter les aides familiales, les allocations sociales pour l'année prochaine. Donc, par exemple, on aura moins 1,17 milliards, c'est les aides, les allocations familiales plus les aides au logement. L'année prochaine, on va désindexer les retraites. Alors ça risque de faire mal. Et on prévoit que dans 2 ans, c'est Henri Stadnia qui dit ça, il y aura à peu près 6 milliards de gains là-dessus. Et un appauvrissement sensible des retraités. Et du coup, le plan de Monsieur Macron, effectivement, ne vise plus... En fait, il vise, en soi-disant prévenant la pauvreté, à catégoriser la pauvreté, sauf que on se retrouve avec une baisse en fait massive quelque part de certaines catégories de la population qui ne sont pas concernées par quoi? Par la lutte contre la pauvreté par l'emploi, parce que c'est ça le grand souci de Monsieur Macron, c'est de lutter contre la pauvreté par la reprise d'emploi. Or il y a certaines personnes qui ne sont pas concernées, donc en l'occurrence les retraités, les petites retraites, les gens qui sont en invalidité, les minima sociaux, par exemple les gens bénéficiaires de l'AAH. Pour donner une idée, aujourd'hui, les minima sociaux, c'est la moitié, pour une personne seule, du seuil de pauvreté tel qu'il est défini.
Parce que le seuil de pauvreté, c'est 1 000 euros,
c'est
ça.
Voilà, oui. C'est-à-dire c'est 2/3 hein, du salaire médian, donc c'est voilà, 1 000 euros. Donc aujourd'hui, être au RMI pour une personne, c'est la moitié du seuil de pauvreté. Il vit, et on se demande comment il se loge. Donc ça, pas de revalorisation des minima sociaux. La dernière était de 10%, et elle remontait à François Hollande. Mais 10%, ça reste ridicule pour lutter contre la pauvreté. Et puis, il y a aussi un autre souci, c'est que finalement, comme le disait très bien Christophe, il faut imaginer ça avec cette politique hein, où en même temps, par exemple, la réforme du RMI, dans quelques années, il faudra accepter deux offres. Il ne faudra pas refuser plus de 2 offres d'emploi raisonnable.
Avant, c'était 3, je crois, de mémoire. Non.
Oui, enfin, oui. Non, pas pour le RMI. Pour le RMI, non, on l'a jamais mis en application. Justement,
d'accord.
Avant, c'était les chômeurs. Maintenant, c'est le RMI. Alors, de fait, si vous précarisez une population qui est pauvre, en l'occurrence, des familles.
Le double peine.
Je veux dire des familles qui peuvent avoir des enfants, des grands-enfants, qui habitent aussi dans le logement, et que eux-mêmes se retrouvent dans une situation d'aller trouver un boulot tout de suite. Eh ben, ces gens-là, en termes de qualification, ils prendront n'importe quoi.
Oui, bien sûr. Voilà.
Et donc, il y a effectivement et ils prendront, ce qu'on leur présente, c'est quoi? C'est des boulots précaires. C'est-à-dire que on veut lutter contre la pauvreté par le travail. Ah, il y a juste un souci, c'est qu'aujourd'hui, il y a des travailleurs pauvres et que le nombre d'emplois précaires est quand même suffisamment important pour que ces gens-là, en fait, restent dans la pauvreté tout en travaillant. Voilà. Et donc, moi, quand je...
Ah, mais c'est ça le business plan. C'est faire un sous-prolétariat.
Pardon.
Le business plan. C'est le business plan de la start-up nation macroniste. C'est refaire...
Comme on fait en Allemagne. Alors,
comme on fait en Allemagne.
Moi,
une armée
j'ai juste l'impression d'un retour lent et à pas
pencher
du... Voilà, au 19e siècle.
Oui, très bien. Alors moi, j'ai juste une question à propos de ce truc-là. C'est le revenu universel d'activité, peut-être de 2022, tu as entendu parler?
Alors justement, c'est ça. Pardon, j'ai confondu le... Oui. Parce que le RMI, ça date. Désolé, je suis un peu pas à jour. Donc effectivement, je parle bien du revenu minimum d'activité de 2022 qui imposera une reprise d'emploi au bout de 2 ans aux bénéficiaires. Pardon, une reprise d'emploi au bout de 2... de ne pas refuser 2 offres d'emploi successives.
D'accord.
Voilà. Sinon... Tintin, leur RMI, parce que c'est encore trop pour ce
genre. Je te remercie pour la précision, Ludo. Une petite chanson, et puis on repasse à notre sujet.
Autour maintenant du chef du Parti libéral du Québec, Monsieur Georges Charest.
Merci, mon pitre. Je suis prêt. L'équipe libérale est prête. Nous sommes prêts. Prêt, prêt. Excusez-la. Je préfère Burger King. Moi, j'aime tout le fast-food de toute façon. Je trouve ça moins compliqué, ça coûte moins cher.
Et oui, c'était libéré, nous, des libéraux, et puis des réacs aussi, et puis tous les autres, hein, pour le coup.
Ça fait du bien, ça.
Voilà. Ça fait... Non, c'était sympa comme chanson. En plus, je pense qu'elle vient du Québec. Hein,
c'est un grand tube au Québec qui date de plusieurs années. On a quelques années de retard. C'est où on ferait des manifestations.
Mais elle est toujours aussi chouette.
Ouais, voilà.
Ah oui, ça fait du bien. Ça fait vraiment
donc,
du bien.
Donc, on va reprendre, si vous voulez bien, cette émission. Donc, c'est Fréquence par Pluriel 106.3 FM, l'émission mode d'emploi sur les chômeurs et précaires. Christophe, tu vas nous parler un petit peu du pognon de dingue que nous pouvons éventuellement dépenser ou que les autres dépensent, je ne sais pas, dis-moi tout.
Alors en fait, suite à la communication institutionnelle et présidentielle sur le pognon de dingue, il y a un collectif d'économistes, des gens très sérieux, qui se sont réunis par rapport à cette prose et puis tout ce que ça sous-entend en termes d'idées, à savoir que la pauvreté coûte beaucoup d'argent à l'État, c'est terrible, etc. Et donc, pour eux, leur analyse sur un terrain totalement neutre et social et économique est sans appel, à savoir que le fameux pognon de dingue freine les inégalités. C'est véritablement un frein contre les inégalités. Et c'est une étude qui donc est parue, je crois, dans la Tribune. C'est assez intéressant parce que ces personnes-là, qui évoquent le ras-le-bol fiscal, le trop de pognon parce que ces aides échouent à sortir des gens de la pauvreté, en fait, c'est un... ces gens-là ont plusieurs économistes auteurs d'un best-seller, Le Capital du XXIe siècle, notamment de Thomas Piketty, donc Piketty, c'est pas n'importe qui, hein, ont commencé à travailler sur un laboratoire sur les inégalités mondiales, ainsi que sur la notion de rétribution, qui est, paraît-il, selon donc le pognon de dingue, si inefficace. Et donc, sur l'ensemble de la période 1990-2018, c'est pas rien, c'est quand même quasiment une génération, hein, on peut le dire.
Même plusieurs, ouais.
Non, c'est une génération en termes de temps, donc c'est significatif au niveau sociologique. Quoi, dans
une génération, c'est 10 ans normalement, enfin, a priori.
C'est
20 ans. Hein. Et donc là, c'est intéressant, si tu veux, c'est qu'ils ont analysé toutes les données des inégalités entre les États-Unis
et la France.
La France.
D'accord.
Et donc, notamment au niveau du système fiscal. Et donc, on se dit, premièrement, pour eux, il y a plusieurs choses. Hein. Et là, je vais expliquer des termes de macroéconomie qui peuvent paraître complexes, mais vous allez comprendre. Ce qu'on appelle les inégalités primaires, c'est... l'égalité devant l'impôt. C'est ça. Voilà, j'ai tant de revenus, combien je vais payer? Et puis, il y a avant impôt.
Oui.
Et il y a après impôt. Et en fait, on se rend compte qu'entre l'avant impôt, effectivement, on paraît beaucoup plus taxé aux États-Unis. Sauf qu'après impôt, les inégalités ne sont pas si flagrantes que ça aux États-Unis. Ce qui est étonnant dans son pays d'une grammaire à Nice.
Oui, c'est tout à fait incroyable.
Et, oui. C'est-à-dire que les chercheurs ont comparé l'évolution des inégalités de revenus et de la redistribution fiscale entre la France et les États-Unis. L'un des premiers enseignements, c'est que la part des revenus des 10% les plus riches dont le revenu total est passé en l'espace de 30 ans de 30% à plus 32%. Tandis que celle des plus 50% les plus modestes a baissé de 24% de la part du capital, enfin en redistribution, de 24% à 22%. Et c'est-à-dire que ça a l'air de rien, mais c'est énorme en termes de milliards. C'est-à-dire que les 50% les plus modestes ont sur un revenu que reprend l'État récupère 22%, et les plus riches, ils ont eu un gain de plus 6%, c'est-à-dire qu'ils sont passés de 30% de tout le capital qu'a pris l'État à 32%. Et ces 2%, ça n'a l'air de rien, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est
tout à fait, parce que c'est pas les mêmes montants, en fait.
C'est pas les mêmes montants. Absolument. Et alors, là, on se rend compte que, alors, on nous dit, oui, mais regardez, ça change rien, parce que le poids des prélèvements obligatoires en France est souvent raillé. La France fait partie des pays présentant le taux le plus élevé, 45% du produit de la richesse produite par an, contre 34% en moyenne dans le reste du monde. Bon, alors bien sûr, il y a des pays beaucoup plus développés comme le Danemark qui pressent encore plus, mais oui, sauf que voilà, après impôts sont plus faibles. Pour autant, les experts soulignent que les inégalités de revenus après impôts, donc après cette captation de l'État, sont plus faibles que celles des revenus avant impôt aux États-Unis.
Ah bon?
Eh oui. C'est-à-dire que l'impact qu'a le système social et fiscal américain est beaucoup plus fort sur les revenus que l'impact français. Et il y a une raison à ça.
Eh ben, on l'attend avec impatience.
Eh ben oui, parce qu'en fait, la raison, c'est que les économistes visent particulièrement ce qu'on appelle les taxes indirectes.
Oui, la TVA.
Et ben voilà, qui sont fortement régressives. Les ménages les plus modestes paient un taux effectif de taxes indirectes supérieur aux plus riches car ils consomment une plus grande part de leurs revenus.
Tout à fait, oui.
Et ben voilà.
Et en France, on est plus de TVA qu'aux États-Unis.
Et voilà. Et dans le viseur des auteurs de la note, figure également des cotisations sociales non contributives, donc tout ce qui est CSG, qui repose à la fois sur un barème légèrement régressif et qui fait que les revenus du capital, principalement présents chez les plus riches, ils sont soumis à un taux plus faible que ceux du travail. Il est là le problème. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il y a des prestations sociales qui sont efficaces en France, mais on est totalement en inégalité complète après impôt. Après impôt, en inégalité. Pourquoi ? Parce que si les prestations sociales freinent donc ces inégalités, il y a une chose qui est unique en France. C'est que le taux d'imposition des revenus du patrimoine est beaucoup moins élevé qu'aux États-Unis.
Ah oui, quand même. Attends, ça c'est aux États-Unis.
Oui.
L'impôt sur le revenu est ton.
Non.
Sur les plus riches,
attention,
plus 30,
attention.
C'est le capital.
Attention, je te parle du capital et du patrimoine. Je te parle pas de l'impôt, c'est pas de ce que tu paies quand tu as le fruit de ton travail ou de ton enrichissement.
Oui, mais enfin, l'impôt
je
sur le capital.
Je te parle du patrimoine. Le taux du patrimoine est beaucoup plus. L'inégalité du patrimoine en France est beaucoup plus importante qu'aux États-Unis.
Oui, c'est vrai.
Beaucoup plus importante. Parce que le taux, les taux d'imposition et les avantages fiscaux qui sont liés au capital, c'est-à-dire tout ce qui est assurance en bourse, participation aux sociétés.
Oui, les actifs, quoi.
Les actifs, mais également patrimoine foncier et immobilier, sont contrairement avec des SS2I, qui a un système assez unique en France, tu peux te débrouiller avec un certain nombre de niches fiscales pour avoir un patrimoine de 2-3 millions d'euros sans payer le moindre centime d'impôt.
Donc en fait, oui, tu es en train de dire que le capital est moins taxé en France qu'aux États-Unis.
Exactement. Alors que, effectivement, tu vas avoir, par exemple, je vais donner un exemple, les monnaies virtuelles. En France, elles vont être super taxées, les monnaies européennes, ce qu'on appelle les crypto-monnaies. Tu fais, par exemple, 1 million d'euros de bénéfices, tu vas devoir donner 600 000 euros en France. Tu vas en Allemagne, c'est 20%. Seulement, tu es aux États-Unis, ça va être beaucoup, beaucoup moins. Alors, tu dis, c'est la France qui prend tout. Sauf que tu es si sur des. Par exemple, aux États-Unis, tu fais 1 million de bénéfices, on te prend que 200 000. Sauf que sur les 700 000 que tu vas réinvestir, tu vas avoir d'autres taxes qui vont se rajouter indirectement.
Ah. Voilà. Et, d'accord, mais en même temps, ça n'empêche pas les inégalités de revenus, elles, d'exploser aux États-Unis.
Alors, oui, absolument. Oui, au niveau du revenu, tout à fait, absolument. Et alors, ce qui est. Mais par contre, là où tu pointes, la vraiment différence avec la France, c'est quoi ? C'est que la France est en pointe sur la question des inégalités du patrimoine. En juin dernier, les économistes de l'INSEE ont signalé dans une étude sur la période 98-2015 que le patrimoine immobilier et financier des Français a doublé, sauf pour les 20% des ménages les moins dotés. Ça veut dire que les 10% des ménages les mieux dotés, ceux qui ont le plus d'argent, ont 600 000 euros à peu près, c'est 595 000, 600 000 euros de patrimoine, tout compris, hein, foncier, financier, actif, tout ça, tandis que les 10% les moins dotés posséderaient 4 300 € de patrimoine. C'est-à-dire que l'inégalité par rapport au patrimoine en France, elle est c'est-à-dire liée à ce qu'on appelle le capital, ce que j'ai en, sur moi sans que l'impôt y passe.
Oui, tout à fait, c'est pas
le criante.
Absolument. Et 10% possèdent 50% du patrimoine. Oui. Selon l'INSEE.
Très bien, merci Christophe. Tu veux peut-être garder la parole pour parler des salariés sans statut éventuellement. Non, c'était le.
Oui. Alors c'est un autre sujet. On va effectivement évoquer un livre très intéressant qui vient de paraître ce 3 octobre, qui s'appelle ce qui est écrit par Ixelles, auteur du livre, donc Ixelles Delaporte, qui est journaliste à l'Humanité. Elle a été elle-même, dans le cadre de cette enquête, surprise entre le contraste visuel, hein, les images d'Épinal qu'on parle dans ce secteur-là, et se retrouver sur un territoire qui est magnifique, au milieu des vignes et des plus beaux châteaux du Bordelais, et d'y voir tant de pauvreté. Alors, elle a publié quoi ? Elle a publié une grande enquête, et je vous encourage à acheter ce livre, parce que c'est très intéressant.
Comment s'appelle ce livre ?
Ça s'appelle « Les raisins de la misère ».
D'accord.
C'est-à-dire que on connaît tous, hein, Médoc, Saint-Émilion, Sauternes, derrière ces noms prestigieux. Voici une plongée dans un monde caché, celui des ouvriers saisonniers, dont dans la précarité sur ces territoires connus pour leur richesse et leur beauté, on y mange pourtant dans la misère et on mange grâce à l'aide des associations. Eh oui. C'est-à-dire que, en fait, le point de départ de l'enquête de cette journaliste, hein, c'est une note de l'INSEE, décidément, qui était en 2011. Elle fait apparaître un couloir de la pauvreté qui en France n'a jamais été vu ailleurs sur un subtil territoire, et pas n'importe quel territoire, justement, c'est celui des grands crus, hein, qui explose une richesse. Alors pourquoi tant de pauvreté au milieu de ces fortunes? Eh bien, Ixelles Delaporte a enquêté, et c'est une extrême pauvreté qui n'est pas connue du grand public. Alors, elle a passé plusieurs mois dans le couloir de la pauvreté en Gironde, puisqu'il y a des chiffres, hein, des gens et des personnes qui sont saisonniers, hein, et qui ont très 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 peu de revenus, qui compensent avec les minima sociaux. Et elle dit, mais comment ça se fait? Et en fait, le quart monde est carrément aux portes de certains châteaux. Donc, on pense tout de suite qu'il s'agit de personnes issues de l'Union européenne qui vont être saisonnières, machin. Eh ben non, ça touche aussi les gens du pays propre. Hein. C'est-à-dire que elle a rencontré des familles qui ne mangent pas tous les jours à leur faim, qui vivent dans des logements de misère, une misère qui se cache dans les bois, au bord de la Garonne, de la Dordogne, sous des tentes, dans des logements peu salubres ou loués à prix d'or par des marchands de sommeil. Eh ben oui, hein, le monde est bien fait. Elle témoigne de cette femme rencontrée qui vit avec sa fille, son petit-fils. Elle fait les poubelles des supermarchés dans le Sauternais pour se nourrir. Décidément, travailler dans les vides comme petite main n'empêche pas la grande précarité. Ce ne sont pas des gens en CDI. Ils ne sont pas employés d'un château. La majorité travaille en contrat à durée déterminée, des petites missions d'intérim ou avec des prestataires de services. Bah, c'est comme ça que... Donc les châteaux, en fait, n'embauchent plus. Les prestataires se chargent de former les équipes et donner les services clés en main. Et évidemment, eh ben, tous les étés, et puis pendant les saisons des vendanges ou la mise en bouteille, eh ben, toutes ces petites personnes, hein, qui sont précaires, hein, et qui vivent dans le pays, eh ben, sont embauchées. D'après l'auteur, cette évolution est marquante depuis une dizaine d'années. Des prestataires qui font lien avec des étrangers marocains, latino-américains, qui arrivent par exemple à Pauillac, car ils ont entendu dire qu'il y avait du travail. Ils sont inféodés aux prestataires de services, qui fixent eux-mêmes le taux horaire, parfois ne les payent même pas. Avant, les châteaux savaient ce qui se passait sur leur exploitation. Maintenant, eh ben, avec les prestataires, ben, ni vu ni connu, je suis employé par telle boîte. C'est, financièrement, c'est bien pour les châteaux, le coût de travail baisse. Hein, donc ils peuvent s'enrichir. Les vignes du Bordelais où les saisonniers de travail étaient comme l'hiver, hein, c'est un héritage de l'histoire. Les châteaux ont en fait toujours fonctionné avec des petites mains. C'est pas une coïncidence, car historiquement dans le Bordelais il y a toujours eu une mainmise des châteaux par les grands propriétaires. Ça existe depuis le XVIIe siècle. Quand le port bordelais prend son essor, le territoire s'enrichit du commerce avec les Antilles comme triangulaire, et notamment de l'esclavage. Hein, donc ça va, voilà, ça date pas d'hier. Donc silence, évidemment, Ixelles Delaporte a contacté plusieurs représentants de châteaux prestigieux via leur service de presse, puisque ces gens-là ont les moyens, car il est difficile d'approcher directement les grands noms, les grands propriétaires qui sont parmi les plus grandes fortunes du pays. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, ils n'ont pas répondu à la question.
Ben voilà, pas de réponse.
Pas de réponse, ouais.
Elle ne met toujours pas tous les châteaux dans le même tonneau, on a envie de dire. Certains se sont adaptés comme Rothschild en mettant à disposition des terrains pour que les saisonniers installent leur campement. Oh, monseigneur, vous êtes trop bon.
Non, mais.
voilà.
Excuse-moi de te couper, mais quand on est saisonnier et qu'on va éventuellement cueillir du raisin, on signe un contrat quand même, a priori.
Oui, mais t'as plein de petites boîtes prestataires qui te font des contrats, mais avec le droit polonais.
Mais c'est nouveau parce que. Oui. Moi, je me souviens, on a tous fait les vendanges quand on était jeunes. Et
tous, c'est un grand mot.
Ouais, enfin, presque. Enfin, bon, beaucoup, tous, quoi. Beaucoup. On va dire. Et, enfin, je veux dire, ça a été très, très cadré à l'époque par la préfecture qui imposait, alors, des tarifs, par exemple, quand on mangeait sur place, quand on était logé, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'abus. Et d'ailleurs, le contrat vendange, j'étais le seul qui était autorisé, qu'on autorisait pendant les vacances salariés. Donc du coup c'est comme si tout d'un coup toute cette réglementation là parce qu'évidemment bon les gens du Médoc connaissent la crise, leur vin se vend mal, etc., ou qu'ils ont affaire à des migrants, je ne sais pas. C'est comme si on avait autorisé tout d'un coup la sous-traitance pour faire les vendanges. Alors c'est pas que pour faire les vendanges, Christophe, c'est aussi pour les ouvriers agricoles.
Excuse-moi, mais quand on est sous-traitant, on fait aussi signer des contrats, a priori, même si c'est des contrats saisonniers.
Non, mais bien sûr, mais si tu travailles, si ça devient informel, c'est-à-dire que si tu travailles quelques jours.
Mais par rapport à ça, ce qui est intéressant, il faudra peut-être un jour contacter cet auteur, d'ailleurs, ça pourrait être très intéressant.
Bah, c'est l'accepte, pas de souci, bien sûr.
Mais si tu veux. Ce qui est intéressant, c'est que Château Margaux, Saint-Imignon, Haute-Côte-de-Nuit, j'en cite des vertes et des pas mûres, si vous permettez l'expression, de le dire, c'est quand même des grosses exploitations où les gens font beaucoup d'argent, quoi. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans les Panama Papers, t'as quand même un certain nombre de grands propriétaires viticoles et pas forcément célèbres, hein, comme Rothschild, qui sont dans les redressements fiscaux parce qu'ils se sont fait des millions. C'est-à-dire que quand les mecs qui vendent leur part, c'est pas un petit million d'euros.
En même temps, c'est pas tout à fait étonnant qu'ils sous-traitent la main-d'œuvre, l'emploi de la main-d'œuvre, finalement. Puisque finalement c'est une commodité pour eux, c'est-à-dire en termes de recrutement, en termes de mais en même temps voilà, est-ce que ça ne concerne que les vendangeurs, ou est-ce que effectivement c'est des gens sur le plus long terme, donc des ouvriers agricoles qui sont concernés? Ça c'est
aussi je pense que c'est les ouvriers à l'école, donc là, agricole pardon, et on en avait parlé il y a quelques années de cela, de l'or blanc, à savoir le statut des ouvriers techniciens des pistes de neige qui avaient vu fondre comme neige au soleil leur droit au fil des ans. C'est-à-dire qu'ils faisaient la saison 3-4 mois en tant qu'agriculteurs. Ils avaient un gros complément de revenus au début des années 90. Et on avait reçu ça il y a une dizaine d'années, une personne. Ils pouvaient mettre de côté le SMIC en quelques mois, par mois, un SMIC par mois.
Oui, tout à fait. Ils pouvaient travailler 6 mois. Ils pouvaient se débrouiller pour travailler 6 mois dans l'année.
Et d'un seul coup, alors que, par exemple, qu'il était technicien remonte-pente et des choses comme ça. Et d'un seul coup, parce que les droits sont emmiettés, les contrats changent, les avantages donnés, il fait que, non, quoi.
Très bien. On s'écoute une dernière petite chanson, ensuite on reprend la parole.
Interrompu.
Et rebonsoir, donc c'était bien sûr Jean Ferrat, un très très grand chanteur. Voilà, donc nous saluons sa mémoire, bien sûr, puisqu'il est décédé, vous le savez bien tous. Donc on reprend cette émission, c'est l'émission Mode d'emploi sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Voilà, l'émission des chômeurs précaires. Là, donc je voulais quand même donner quelques informations complémentaires, principalement pour toutes les femmes qui sont battues par leur mari et qui meurent sous les coups de leur mari. Demain, une manifestation après-midi sur la violence faite aux femmes et sur éventuellement le féminicide, puisque effectivement deux femmes ennemies meurent tous les trois jours en France. Sans parler dans les autres pays du monde où il y a effectivement un certain nombre de choses qui se passent, comme les mariages forcés, la lapidation, l'excision, etc. Donc il est intéressant quand même de donner son soutien à cette manifestation. Et c'était apparemment Muriel Robin qui a initié la chose, hein, après les histoires de MeToo, etc. Hein, et l'affaire avec Einstein, je crois que c'est ce nom-là. Voilà, donc c'est demain après-midi, je n'ai pas le lieu, mais vous pouvez retrouver ça éventuellement sur toute la presse papier. Très bien. Et également le 9, manif interprofessionnel à 14h à Montparnasse. Voilà, donc, oui.
Alors, je rappelle que c'est une grande manifestation interprofessionnelle et intersyndicale.
C'est ça, hein, oui.
Qui a fait à l'appel de CGT pour la défense des services publics contre la politique du gouvernement actuel, contre ce fameux plan de précarité et puis les suppressions des postes dans la fonction publique notamment. Et donc, je crois que c'est le rendez-vous est à...
Vers 14h aussi, non ?
Oui, vers 14h aussi. C'est
tu as le lieu, peut-être ?
Non, j'ai pas le lieu. Vous trouverez sur la CGT, notamment, toutes les coordonnées de la manifestation.
Très bien, merci.
C'est à Montparnasse. Hein.
Montparnasse.
Oui, c'est bien ça. J'avais l'impression de vous...
Montparnasse, c'est à 14h.
14h, c'est ça. Merci, Ludo. D'autres annonces, peut-être ? Non,
non,
très bien. Bien, bah, cette émission se termine. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis, pour nous, ce qui nous concerne, bien sûr, dans un mois, la semaine prochaine, c'est, Ludo, rappelez-moi un petit peu.
La semaine prochaine, c'est Attaque.
C'est Attaque, ouais. Merci.
Et tout de suite, c'est CSM, Stress et Mécano, avec Bruno et toute la bande.
Toute son équipe.
Et toute son équipe. On prend les annonces, bien sûr, heureusement. Voilà.
Bisous aux filles et poignées de mon garçon. Merci.
Allez, bonsoir à tous.
Bonsoir.